un des éléments qui m'a intéressé dans l'exposé précédent et qu'il y a dans l'intitulé de votre séminaire, c'est cette espèce de clivage permanent que l'on sent, alors on dit des fois, entre les champs épistémologiques, souvent. Et je trouve qu'on dit ça parce que c'est un joli mot, et puis c'est savant, et puis une fois qu'on a dit ça, après ça cisaille toute discussion. Mais alors la méthode de Exner ou la méthode d'interprétation classique du Rorschach, on sent qu'il y a des approches qui sont différentes, je vous l'accorde. Est-ce que ce sont vraiment des champs épistémologiques différents? Peut-être. Est-ce que c'est vraiment incompatible? Est-ce que c'est pas miscible? Je sais pas. L'intitulé de votre séminaire Neuropsychanalyse, il met le doigt juste dessus. Bon, alors, la question se pose, jusqu'à quel point a-t-on le droit de tout mélanger? Je vous l'accorde. La question se pose. Mais les épistémologies sont à notre service et nous ne sommes pas au service des épistémologies. Les épistémologies ne doivent pas nous empêcher de penser à des rapprochements. Et puis, vous savez, l'histoire a montré que les épistémologies, elles changent. Et que c'est même leur destinée. Donc, si c'est aujourd'hui que ça doit arriver, aujourd'hui, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais si c'est au début du XXIe siècle que ça doit arriver, voilà, il faut s'y préparer. Alors, un autre clivage dont je parlais dans mon titre, c'est gène-environnement. Vous voyez, alors c'est comme si c'était un yalta du développement de l'être humain. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez les gens qui font de la recherche. Alors la génétique, c'est pas n'importe quelle biologie, c'est de la biologie algébrique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, quand on a un papa et une maman qui ont les yeux bleus, normalement, l'enfant, il doit avoir les yeux bleus aussi. Voilà. Et donc ça a posé des problèmes... Depuis longtemps, alors aujourd'hui qu'on fait des biopuces avec 500 000 gènes, vous imaginez tous les problèmes qu'on va avoir avec ça. Donc c'est algébrique. Contrairement à ce qu'on pensait depuis 2500 ans, vous savez, Aristote disait il y a le monde supralunaire et sublunaire. Sublunaire, c'est le chaos, quoi. C'est-à-dire c'est nous, c'est le vivant et tout ça. Tout ça, c'est imprévisible, c'est contingent, c'était la source de notre liberté. La génétique, c'est le contraire, hein. C'est pas sublunaire, c'est algébrique, alors que c'est du vivant. Donc vous avez les gènes qui ont un poids symbolique très fort dans notre société. Et puis l'environnement. Et alors l'environnement, ça va de la méthylation de l'ADN jusqu'à la religion. Et vous voyez, alors, c'est vraiment un yalta, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez la science biologique sérieuse, la génétique, et puis tout le reste. Et naturellement, l'artifice de marketing, c'est que les deux ont le même poids, puisqu'il y a deux mots. Donc, de façon subliminale, on dit qu'il y a les gènes et l'environnement. Et donc, vous voyez, c'est de la com, quoi. C'est de la communication pour vendre des concepts. C'est une proposition que je fais, et c'est là-dessus que je voudrais en discuter avec vous ce soir. Moi, je voudrais vous montrer que, en fait, c'est le vocabulaire qui est différent. Chez Exner et chez les autres, c'est pas le même vocabulaire. Chez les généticiens, chez les psychanalystes, ça n'est pas le même langage que l'on utilise, et c'est ça qui donne l'impression qu'il y a un clivage épistémologique. Donc, ça n'est pas rien, parce que le langage, ça n'est pas rien. Mais ça n'est pas tout, et en tout cas, ça n'est pas essentiel. Voilà, alors je vais vous faire une démonstration de ce point de vue avec une démonstration qu'on appelle constructiviste, c'est-à-dire je vais essayer de vous construire une autre façon de se représenter objectivement le fonctionnement psychique de l'être humain, mais qui ne repose pas sur le langage actuel des neurosciences. Quel est le langage actuel des neurosciences d'ailleurs? Vous savez, toutes les sciences ont un langage. La physique a comme langage les mathématiques. Et la biologie n'a pas comme langage les mathématiques. D'ailleurs, Pendant le XXe siècle, on lui a reproché, on a dit beaucoup que la biologie était une science immature parce qu'elle n'était pas mathématisée et qu'elle aurait ses lettres de noblesse le jour où elle sera mathématisée. Eh bien, les épistémologistes ne pensent plus ça. Pourquoi ? Parce qu'elle a beau ne pas être mathématisée, elle évolue en constamment et elle fait des progrès. Donc, vraisemblablement, elle n'a pas besoin d'être mathématisée. Aujourd'hui, peut-être que ça va changer. Et en tout cas, quel est le langage de la biologie aujourd'hui ? Si vous allez dans un congrès de biologie, vous verrez quoi ? Vous verrez des mots compliqués reliés par des flèches. Ribosome, ADN. Maintenant même, c'est même pas des mots, c'est des successions de lettres. Vous savez, TAC20, etc. pour dire qu'il y a des gènes. Donc ça, ce sont les mots. Et puis, vous avez des graphiques avec des chaînes, des flèches. Plein de flèches. J'ai compté jeudi dernier à un séminaire. Sur la même diapositive, il y avait 55 flèches. 55 flèches. Et c'est, je vous le dis exprès, parce qu'en fait, c'est un symptôme. Quand sur une diapositive, il y avait 70 mots qui sont imprononçables et qui sont faits pour ça, et que ces mots sont reliés par des flèches, qu'il y a 55 flèches, vous êtes arrivé au bout de ce qui est raisonnable. Parce que personne ne peut comprendre ce qu'il y a sur la diapositive. Les biologistes donc utilisent ce qu'on appelle le calcul propositionnel classique, c'est-à-dire A implique B, A implique B implique C, donc A implique C. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le calcul propositionnel classique. On relie des objets par des flèches. Eh bien, de mon point de vue, c'est pour ça que quand on entend Exner, quand on entend des généticiens, quand on entend des neuroscientifiques parler de la pensée, on a une impression d'étrangeté. Je ne sais pas si ça vous avait déjà fait ça, vous devez recevoir ici des neuroscientifiques. Quand ils parlent de la pensée, on a l'impression que ce n'est pas de la nôtre, que c'est un peu autre chose, que c'est une pensée. Alors on dit oui, c'est une pensée objectivée, c'est pour ça que c'est différent. Pas du tout, ce n'est pas parce qu'elle est objectivée, c'est parce qu'on en parle avec le calcul propositionnel classique. C'est à cause des mots qu'ils utilisent que ça donne cette impression. Et donc, à contrario, quelle est la langue des psychanalystes ? La langue des psychanalystes, c'est la langue de la métaphore et de la polysémie. Hein, si vous lisez Freud, les textes qu'il a écrits sont des textes très littéraires et très riches en termes sémantiques. C'était sa façon de faire passer les choses. Alors, bien sûr, ça a un inconvénient. La polysémie et la métaphore, ça a l'inconvénient de générer de l'ambiguïté. Alors on peut s'en servir de l'ambiguïté, mais ça a des effets secondaires, c'est que on n'est pas sûr d'avoir compris ce qu'il avait écrit, et vous savez que ça continue. Et puis, on peut s'en servir pour dire que, en fait, il voulait dire blanc, alors qu'il aurait voulu dire noir et réciproquement. Et donc ça permet de séparer des groupes sur des bases. C'est parce que je parle trop. Ça permet, donc, comme il n'y a pas d'unicité sémantique des mots qui sont écrits et du corpus écrit, eh bien, on fait des progrès, mais au bout d'un certain temps, on a du mal à en faire parce qu'on n'arrive plus vraiment à comprendre ce qui est écrit. Et donc, de mon point de vue, donc c'est ça qui explique cette espèce d'opposition, cette impression de clivage qu'il y a dans les deux termes de votre séminaire de neuropsychanalyse. Neuro, c'est le côté calcul propositionnel classique, reproductible, réfutable, mais un peu raide, et donc qui ne peut pas arriver à la complexité. Et puis, psychanalyse, qui utilise une langue riche, complexe, qui aborde la complexité, donc, mais qui est polysémique, et donc, à un moment donné, ça lui pose des problèmes pour avancer. Donc moi, ce que je vous propose, et là je commence tout de suite parce qu'il est temps, je vous propose d'essayer de voir comment on pourrait faire autrement, et on retrouvera à la fin que l'interaction gène-environnement, et ben en fait, c'est pas si dramatique que ça, et que ça n'y a pas de clivage. Donc je pars, donc là j'ai pas de complexe, puisque c'est de la neuropsychanalyse, je pars d'un neurone. Vous savez tout ce que c'est. Normalement, c'est polarisé, avec des plus à l'intérieur et des moins à l'extérieur. Non, c'est le contraire. C'est des moins à l'intérieur, des plus à l'extérieur. Et puis, par moment, le neurone peut être dépolarisé. Alors, vous savez hein, que si vous le dépolarisez juste un tout petit peu, ça ne lui fait pas grand-chose, le neurone. Et puis, il y a un seuil au-delà duquel il se dépolarise brutalement. Un neurone a un fonctionnement fondamentalement non linéaire. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, la biologie raisonne fondamentalement en termes linéaires. A implique B, implique C, c'est linéaire. Or, un neurone, c'est non linéaire. Les neurones, en plus, sont très fortement connectés les uns avec les autres. Et vous savez que le cerveau fonctionne comme ça. Ce n'est pas un discours de vérité que j'ai pas du tout. Hein. C'est un discours... Je vous dis juste ce qui est marqué dans les livres. Naturellement, tout ça est en partie faux. C'est toujours comme ça. Donc vous avez des neurones, vous savez, avec des axones et puis qui sont connectés les uns avec les autres. Si ce neurone, donc les neurones sont polarisés normalement, si celui-là se dépolarise, eh bien, il se dépolarise partout, il se dépolarise là aussi. Et donc il va dépolariser localement le neurone 5. Mais comme c'est juste localement, ça ne va pas lui faire grand-chose. Et par contre, si le 1, 2, 3, 4 sont dépolarisés simultanément, ils vont dépolariser tout ça du neurone 5 et ça va suffire pour le dépolariser complètement. Donc le neurone 5 va être dépolarisé à son tour et puis il est susceptible de dépolariser à son tour un neurone en aval, et etc., 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 etc. Voilà comment fonctionnent les neurones en première approximation. Alors ça peut se modéliser... Et ça a été modélisé comme ça par les informaticiens après la Seconde Guerre mondiale. Donc on dit qu'un neurone est allumé ou éteint, polarisé ou dépolarisé. Les neurones sont liés les uns aux autres avec des coefficients, avec des poids. Ce sont des nombres compris entre moins 1 et 1, on peut dire, ou entre moins l'infini et plus l'infini. Ça n'a pas d'importance. Et plus le poids est fort, plus ça veut dire que ce neurone-là influence celui-là. Et puis, de la même façon que ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut dire que le neurone d'aval, ce neurone 1, eh bien, il va se dépolariser s'il est lié à beaucoup de neurones qui sont, eux, majoritairement dépolarisés. C'était ma diapositive précédente. Alors, ça s'écrit comme ça, vous voyez. Je sais bien que c'est une formule. Et qu'il est tard pour lire des formules, mais c'est quand même, je pense que si certains ont des enfants, ils ont déjà fait des trucs aussi compliqués. Hein, vous voyez, le neurone vaut plus ou moins 1 selon qu'il est activé ou pas activé. Je fais le produit du point qui relie les deux neurones par la valeur du neurone, et puis si ça dépasse un certain seuil, alors le neurone s'active, sinon il ne reste pas activé. C'est élémentaire. Hein. C'est une règle d'évolution élémentaire qui pourtant permet de générer des situations d'une extraordinaire complexité. Et ça, c'est un résultat que nous a donné les mathématiques. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de la vie. C'est un petit jeu qu'on peut programmer avec Excel. Hein. Prenez un damier, et puis si vous avez quatre cases qui sont allumées simultanément, le coup d'après, elles s'éteignent. Par contre, si vous avez une case allumée, toute seule, le coup d'après, toutes les cases autour s'allument. Voilà, c'est tout. Et puis vous faites tourner votre ordinateur comme ça, et au bout d'un certain temps, vous verrez des figures géométriques extraordinairement compliquées. Alors, les physiciens, les informaticiens, sont partis de cette représentation formelle d'un cerveau, extrêmement élémentaire, pour essayer de voir quelles propriétés ça pouvait avoir. Alors, à quoi ressemble un cerveau comme ça? Donc un cerveau, ce sont des cellules qui sont allumées ou éteintes et qui sont reliées les unes avec les autres. C'est-à-dire, un cerveau, ça ressemble à un nuage de particules scintillantes. C'est des lampes qui s'allument, qui s'éteignent, et de façon un peu erratique, comme ça, au cours du temps. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est... Est-ce que ce nuage de particules scintillantes va continuer à scintiller sans s'arrêter? Ou est-ce qu'au bout d'un certain temps, il va se stabiliser vers un état fixe. Eh bien, on a réussi à montrer qu'effectivement, si on prend la règle que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, au bout d'un certain temps, le nuage finit par converger vers un état stable. Comment on a montré ça? Eh bien, on a défini une énergie du réseau. Et ça ressemble à une énergie, on voit un demi dedans, et puis ça ressemble à une masse, et ça ressemble à un produit. Ça, vous voyez, comme l'énergie cinétique, c'est un demi de MV2. C'est homogène à une énergie, ça. Donc, on peut définir l'énergie d'un réseau de neurones, et on montre mathématiquement que l'énergie ne peut que décroître au cours du temps. Et comme c'est un système fini, l'énergie ne peut pas être infinie, donc à un moment donné, elle se stabilise. Elle ne bouge plus, puisque si elle bouge, elle continue à décroître. Comme elle ne peut pas décroître indéfiniment, ça veut dire qu'elle s'arrête. Quand elle s'arrête, le réseau est dans un état stable. C'est ça la magie des mathématiques, c'est que ça, pour le coup, c'est vrai. Tout à l'heure, je vous ai dit que le cerveau, on ne savait pas si c'était comme ça, mais par contre, cette règle, elle est vraie. Donc, première propriété, un cerveau modélisé comme ça, il évolue, il diminue d'énergie au cours du temps et tout d'un coup, il s'arrête. Deuxième résultat, imaginons que ce cerveau s'adapte à la réalité. Vous savez, le cerveau est plastique. Et imaginons donc que dans la vie de ce cerveau, quand il est régulièrement dans des configurations données, pour nous ça veut dire quoi? Par exemple, quand on est confronté à des situations qui sont régulièrement les mêmes. Eh bien, donc quand deux neurones sont simultanément, fréquemment activés ou désactivés en même temps, eh bien le lien qui les relie augmente. A contrario, quand deux neurones sont dans des états qui sont souvent différents, le lien diminue. Et puis, quand deux neurones sont dans des états qui n'ont rien à voir, statistiquement, le lien s'annule. Vous voyez la logique. Eh bien, on peut montrer que quand le réseau de neurones qui obéit à cette nouvelle loi va converger au fil du temps vers un état stable, eh bien, cet état stable, c'est un état qui fait partie de ces états qui ont été mémorisés, c'est-à-dire auxquels le sujet a été confronté fréquemment. Alors, vous êtes en droit de me dire, on aimerait bien avoir une espèce de preuve de ça, parce que ça paraît d'abord un peu abstrait. Et puis, est-ce que c'est vrai? Alors, avant d'en arriver là, on peut représenter graphiquement ce que je viens de vous dire. Chaque point de cette grille, là, correspond à un état possible du réseau de neurones. Un état possible du réseau de neurones, là par exemple, si j'ai 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, c'est un état possible. Si j'ai 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, c'est un autre état possible du réseau de neurones. Eh bien, chaque nœud de la grille correspond à un état possible du réseau de neurones. Quand je passe d'un nœud de la grille à un nœud adjacent, qui est juste à côté, il y a juste un neurone qui change d'état. Ok ? Alors, d'après la règle, la hauteur, l'altitude d'un nœud de la grille correspond à l'énergie de l'état du réseau de neurones correspondant. Donc, si mon cerveau, il est à cet état, à l'instant t égale à 0, à l'instant t égale à 1, que va devenir mon cerveau? Donc, je vais faire des états très proches les uns des autres où il n'y a qu'un neurone qui change à chaque fois. Vous vous souvenez que d'un état à l'état suivant, l'énergie ne peut que descendre. Donc, partant de là, le coup d'après, je vais forcément être plus bas. Forcément être plus bas, le coup d'après. Forcément être plus bas. Je vais descendre le long de ce relief jusqu'à ce que j'arrive vers un minimum. Et dans ce minimum, je ne bougerai plus. Et le minimum correspond à quoi? Eh bien, le minimum correspond à, compte tenu de la règle précédente, la règle de M, ce minimum correspond à un état du réseau de neurones dans lequel il s'est trouvé fréquemment. Et comme il s'est trouvé fréquemment dans cet état, nous on dit que on l'a mémorisé. Quand est-ce qu'on mémorise quelque chose? Alors, on mémorise quelque chose quand on le voit fréquemment ou quand on y fait attention. Ça, c'est une autre histoire. Donc, on peut représenter graphiquement l'ensemble des états possibles d'un réseau de neurones, et en plus, cette représentation graphique permet de représenter la dynamique d'évolution du réseau de neurones au cours du temps. Voyons cela de façon plus appliquée. Je vais simuler par ordinateur un réseau de neurones. Donc voilà, ce réseau, alors il va être plus compliqué que ça, mais ça va être le même principe. Chaque cellule est éteinte ou allumée, noire ou blanche, et toutes les cellules sont connectées les unes aux autres. On va considérer que c'est le cerveau visuel d'un bébé. Donc c'est le cerveau visuel d'un bébé, et ce cerveau visuel, donc c'est un bébé qui est sur une île déserte, il est confronté très régulièrement à trois images. Un, le visage de sa maman. Deux, sa maman à côté de son papa. Et puis trois, un bateau qu'utilisent son papa et sa maman pour aller pêcher. Donc le bébé est confronté régulièrement à trois images. Ces images, compte tenu de l'algorithme que je vous ai dit tout à l'heure, vont modifier les connexions entre neurones de façon à ce que ces trois images soient des minimums énergétiques. Je vais donc avoir trois attracteurs, c'est-à-dire trois gros minimums énergétiques. Un correspond à papa et maman, l'autre à visage de maman, et le dernier à bateau. Alors maintenant, normalement, si le bébé voit le visage de sa maman à moitié caché, c'est-à-dire par exemple il part de là, comment va évoluer le cerveau du bébé? Il va descendre petit à petit jusqu'à tomber sur le minimum énergétique qui est le plus proche de la position initiale et qui doit correspondre au visage de maman. C'est pour ça que quand un bébé voit le visage de sa maman déformé, par exemple si elle s'est levée en pleine nuit parce qu'il pleurait, elle a beau ne pas avoir... Ce n'est pas la même représentation graphique qu'il a en face de lui. Elle est dépeignée, elle n'a pas ses lunettes, elle n'est pas maquillée, etc. Et pourtant, il la reconnaît immédiatement. Alors, ça peut se simuler. Donc, j'ai programmé un cerveau visuel de bébé, exactement comme je vous l'ai dit, avec trois images qui lui sont présentées régulièrement. Donc, le bébé voit le visage de maman à moitié caché. Et puis, petit à petit... Qu'est-ce qui se passe? Le réseau évolue, il évolue jusqu'à tomber sur l'état du système qui est le plus proche de celui, l'état du système mémorisé qui est le plus proche du niveau de départ, c'est-à-dire le visage de maman. On est parti de là et petit à petit, un neurone s'est éteint, s'est allumé, etc. Jusqu'à la fin, je tombe sur le visage de maman. Donc c'est ce qui explique que nous avons tous une aptitude incroyable à la reconnaissance. Maintenant, si le bébé voit la silhouette de maman toute seule, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de la même façon, son cerveau va converger petit à petit vers l'image qu'il a mémorisée et qui est la plus proche de l'image de départ. C'est la silhouette de papa et de maman, l'un à côté de l'autre. On a là, alors, ça paraît idiot, mais vous qui vous intéressez aux enfants et aux adolescents, vous savez qu'il y a des théoriciens qui disent que quand un enfant voit sa mère toute seule, il sait inconsciemment que son père n'est pas loin, et que c'est un organisateur de la vie psychique. Vous voyez que quelque chose qui peut paraître extraordinairement sophistiqué peut s'expliquer de façon très simple et peut même se simuler avec un ordinateur. Alors, qu'est-ce qui va se passer si le visage de maman est trop caché? S'il est trop caché, le bébé ne reconnaît pas le visage de sa mère. On est trop loin de cet attracteur et, oui, on va évoluer vers un attracteur parasite. Et alors, si on fait ça sur le modèle de cerveau que j'ai programmé, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, partant de là, on converge vers ça. Alors, effectivement, ce n'est pas le visage de maman. Mais c'est quoi? Ce n'est pas rien du tout. vous reconnaissez les yeux, la bouche, mais en même temps, il y a maman et papa, et en même temps, on voit la voile du bateau. C'est une condensation des trois images précédentes. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'un cerveau programmé de façon complètement élémentaire retrouve quoi ? Un, le fait que se souvenir, c'est reconnaître. Mémoriser, c'est reconnaître. Vous avez vu que quand je mémorise quelque chose, ça correspond à des attracteurs énergétiques dans la représentation graphique de ma dynamique psychique. Et que quand je pars d'un état, si je coupe les stimulations qu'il y a autour de moi, mon cerveau va converger pour retrouver un état dans lequel j'ai été fréquemment antérieurement. Vous arrivez devant de chez vous, vous cherchez vos clés pour ouvrir la porte, vous n'avez pas vos clés. Tout d'un coup, dans votre tête, mes clés étaient, etc., j'ai pris l'ascenseur, j'étais dans la voiture, etc., etc. Les clés sont, je les ai oubliées sur mon bureau, elles sont là-bas. Petit à petit, votre cerveau a convergé vers un état. Et comment on dit dans ces cas-là? On dit qu'on associe. On va d'état psychique en état psychique, et c'est pas n'importe comment. Non, c'est pas n'importe comment. Vous allez de niveau énergétique de plus bas en plus bas, jusqu'à ce que vous tombiez vers un minimum qui correspond à une situation qui vous a marqué et qui s'est imprimée dans ce réseau d'attracteurs. Donc, un, avec une dynamique cérébrale formalisée comme ça de façon très simple, on retrouve le fonctionnement associatif. Deux, on retrouve des processus de condensation. Alors, on retrouve aussi des choses que disaient des philosophes il y a bien longtemps, c'était pas si ancien que ça. Le fait que, en fait, percevoir, c'est se souvenir. Il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs. Aux données immédiates et présentes de nos sens, nous mêlons mille et mille détails de notre expérience passée. Le plus souvent, ces souvenirs dépassent nos perceptions réelles, dont nous ne retenons alors que quelques indications, simples signes destinés à nous rappeler d'anciennes images. Donc quand on voit quelque chose, certes on le voit, mais immédiatement, on converge vers un souvenir qui est associé à l'image que l'on a en face de nous. C'est ce qui fait d'ailleurs que quand on est à un musée en groupe et que l'on voit un tableau, on ne voit pas forcément la même chose pour le même tableau. Alors vous me direz, oui, certes, mais c'est quand même la même image que l'on a en face de nous. Donc on voit la même image et pourtant on n'a pas accès au même souvenir qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on n'a pas la même conscience visuelle du spectacle qui s'offre à nous. C'est ça qu'on a envie de dire. Comment ça peut se modéliser à partir du réseau que je vous ai présenté tout à l'heure? Alors, on va complexifier un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, c'était là, le réseau que l'on a fait. Donc, voilà les yeux, voilà la rétine. La rétine, vous voyez, elle est composée de cellules, mais qui ne sont pas interconnectées les unes avec les autres. Ce qui est un peu faux pour la rétine, mais je vous ai dit encore une fois, je ne prétends pas dire la vérité. Je prétends juste vous proposer un modèle qui permet de penser les choses différemment. En plus, ce modèle n'est pas complètement faux non plus. Puis vous savez que quand on fait de la physique, on sait bien que tous les modèles sont faux et que certains sont efficaces. Mais c'est vrai. C'est vrai. On pourra en discuter, mais... Donc la rétine, c'est un ensemble de cellules non interconnectées qui s'allument en fonction des photons qui arrivent dans votre œil. Donc voilà, vous avez le visage de maman à moitié caché. C'est ça que vous voyez par définition. Ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a sur la rétine. Maintenant, cette rétine, avec le nerf optique, elle est reliée au cortex occipital. Lui, ce cortex, il est composé de neurones reliés les uns aux autres. Ce qui fait que quand le visage de maman à moitié caché s'allume ici, il s'allume dans votre cortex occipital, mais comme les neurones sont reliés les uns aux autres, ici convergent. Ce bout de cortex converge vers l'image fréquemment rencontrée et qui est la plus proche de cette image initiale, qui est le visage de maman. Ici, vous avez une conscience visuelle que c'est le visage de votre maman. Et vous avez, là, des petites flèches rétrogrades, quelques-unes, et il paraît qu'elles existent vraiment, qui fait qu'en surimpression sur votre spectacle visuel, vient se superposer l'attracteur que vous avez atteint au niveau de votre cortex occipital. Et c'est ce qui fait que quand vous voyez une scène, vous ne voyez pas tout de la même façon. Quand vous voyez la Joconde, par exemple, vous ne voyez pas qu'il y a un pont ici. Vous ne voyez pas qu'il y a, qu'il y a une route ou un ruisseau. À moins de vous focaliser dessus. Alors que les photons qui viennent de la Joconde, ben, il y en a autant qui viennent de là que de là. Seulement, quand vous voyez ce spectacle, vous convergez vers quelque chose de très important qui est qui correspond au visage d'une femme bienveillante, etc., etc., etc. À chacun son truc, mais en tout cas, vous convergez ici vers quelque chose qui, en surimpression, vient se caler ici après sur le spectacle de la Joconde et qui fait que, c'est ce que disaient les phénoménologistes, hein, que pour bien, je crois que c'était Lévinas qui disait ça, pour bien regarder quelqu'un, il ne faut pas même connaître la couleur de ses yeux. Ce qui n'est pas faux, hein. Vous savez, il faut vraiment se mettre à distance et puis se laisser imprégner par la personne et tout d'un coup, on ne voit plus les détails, on ne voit plus que la personne. Et quand vous êtes dans cet état-là, c'est que vous coïncidez avec votre attracteur, c'est-à-dire que vous avez vraiment atteint ce qui est l'essence du spectacle qui est en face de vous. C'est très phénoménologique. Et d'ailleurs... Enfin... Alors... Ça, c'est vrai, j'ai dit pour la vision, mais ce qui est fort, c'est que tout est mélangé. Il y a cette belle phrase, « Chaque qualité est révélatrice de l'être de l'objet. Le jaune du citron est étendu tout à travers ses qualités, et chacune de ses qualités est étendue tout à travers chacune des autres. » C'est l'acidité du citron qui est jaune, c'est le jaune du citron qui est acide. On mange la couleur d'un gâteau, et le goût de ce gâteau est ce qui dévoile sa forme et sa couleur à ce que nous appellerions l'intuition alimentaire. Là aussi, on est dans la langue riche, extrêmement métaphorique. Comment on peut modéliser ça? Eh bien, en considérant, et en plus, il semble qu'il y ait des bases neuroanatomiques en rapport avec ça. C'est dans un article de Cognition, c'est facile à se souvenir, c'est le premier article du mois de janvier 2000, de la revue Cognition, où le collègue Stanislas Dehaene, le grand neuroscientifique français, fait une revue de la conscience où il parle du Global Workspace. Global Workspace, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez les yeux avec la rétine et le cortex occipital, c'est ça maintenant. Et puis vous avez la même chose avec l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, la proprioception, parce qu'on reconnaît des choses aussi avec l'ouïe. On associe des choses aussi avec lui. Hein. De la même façon qu'on associe des images, on associe, quand vous écoutez un CD, que vous l'écoutez souvent en même ordre, à la fin de la première chanson, vous avez déjà la deuxième chanson qui résonne dans votre tête. Hein, par contiguïté. Parce que vous êtes tombé, partant de cet état, dans la période vierge qui est entre les deux pistes, votre cerveau, lui, converge vers quelque chose qui est l'attracteur le plus proche, etc. Et l'attracteur le plus proche, c'est la piste suivante. Donc, et puis là, il y en a un qui est drôlement important, c'est la proprioception, c'est-à-dire c'est le corps. Hein, on l'oublie d'ailleurs, ça c'est un lapsus. Hein. On dit souvent qu'on a cinq sens, bien sûr, il y en a un sixième qui est... Alors s'il fallait en laisser tomber un, ça serait sûrement pas celui-là. Donc là-dedans, on a aussi les perceptions internes. Et tous ces réseaux convergent vers un méta-réseau qu'on appelle Global Workspace, et il semble que ça existe en termes neuroanatomiques, qui fait la synthèse de toutes les modalités de notre vécu sensoriel. Ce qui fait que quand je vous dis pensez à votre lycée, fermez les yeux, pensez à votre lycée, vous allez voir par exemple la porte d'entrée du lycée, donc je vous dis pensez à votre lycée, ici vous allez... Alors, j'envoie le mot lycée. Le mot lycée, il n'est pas dans ce réseau-là, il est ailleurs. On va le voir tout à l'heure, il y a un réseau de langage qui est ailleurs. C'est là que le mot lycée part. Et puis, en tout cas, ici, tout d'un coup, vous convergez vers... ou alors, on vous montre la photo de votre entrée du lycée. Donc là, ça, c'est plus simple. Vous voyez la photo d'entrée de votre lycée. Ici, vous convergez vers l'attracteur. C'est mon lycée, mais l'attracteur visuel. Là, vous convergez vers la substantifique moelle de ce qu'était votre lycée. Et puis, par rétroaction, vous allez entendre ici les bruits de la cour de récréation. Vous allez, après, expérimenter peut-être des choses plus, plus personnelles. En tout cas, il y en a, on retrouve aussi ce que disent les phénoménologistes, c'est que, vous savez, quand on voit quelque chose, on voit la chaise, si l'on se met vraiment à distance de la chaise, on est imprégné par la chaise dans son intégralité, et ça dépasse la simple perception visuelle de la chaise. On a l'essence de la chaise, quelque part. Alors, ça paraît risible, mais en fait, ça marche bien. Et en tout cas, en clinique, c'est quelque chose que l'on fait souvent. On parle avec quelqu'un d'entretien, on parle avec lui, et puis au bout de 10 minutes, un quart d'heure, plus ou moins, en fonction des gens, on a le patient en face de soi. C'est le patient. On l'a. Une espèce de résonance avec lui. Et bien, cette résonance, c'est qu'on a atteint ici un attracteur particulier qui correspond à la sédimentation de notre expérience, qui est la plus proche de la situation clinique que l'on a en face de nous. Alors, ces attracteurs, en plus, ils ont une position relative les uns avec les autres qui obéissent à une certaine logique. Si je prends par exemple, là, vous avez vu des chats. Peut-être même que vous en avez chez vous, que vous en aviez quand vous étiez enfant. Vous arrivez chez vous en voiture. Vous voyez une forme qui passe à 50 mètres de vos roues. Vous dites, tiens, j'ai vu un chat. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez vu quelque chose et votre cortex occipital converge vers la situation la plus proche et vous voyez un chat. Vous tombez dans l'attracteur chat. Mais l'attracteur chat, il est composé de plein de sous-attracteurs. Il a un relief compliqué. Par exemple, ici, si vous avez un chat, eh bien, à l'intérieur de l'attracteur chat, il y a l'attracteur votre chat à vous. Comme vous le voyez tous les jours, vous le caressez, etc., eh bien, il laisse une empreinte très forte dans votre cerveau. Ça correspond à un attracteur extrêmement profond, acéré. Ce qui fait que quand vous voyez votre chat, vous le reconnaissez avec assurance, parce que vous tombez au fond de l'attracteur, vous ne pouvez plus en sortir. C'est votre chat, vous en êtes sûr. Quand vous voyez un chat en général, ça laisse une impression de « c'est un chat ». Ça n'est pas votre chat. Et puis quand vous voyez le chat de votre voisin, eh bien, certes, il a une particularité, mais vous le voyez beaucoup moins souvent. Donc, ça doit être le chat de mon voisin. Ça doit être, c'est une cupule. Parce que comme vous le voyez moins souvent, il laisse moins d'empreintes. Il a laissé moins d'empreintes dans votre réseau de neurones. Alors, bien sûr, à ce niveau, donc là-dedans, on a un réseau d'attracteurs donc, qui intègre toutes nos expériences sensorielles et qui intègre tous les aspects de notre vie psychique, puisqu'à l'intérieur d'un attracteur, il y a tout un tas de sous-attracteurs qui correspondent à toutes les modalités de rencontre du phénomène un chat, et puis il y a plein d'autres objets ou sujets qui ont laissé des empreintes dans notre cerveau. Alors, vous me direz, certes, mais si on prend par exemple l'attracteur maman, donc qui a laissé très tôt des empreintes très fortes, et vous savez que la plasticité du cerveau chez un bébé est encore plus importante que chez nous, ça existe toujours, chez nous on a toujours un cerveau plastique, chez un bébé c'est encore plus fort, donc le bébé en permanence en lien avec sa maman, eh bien il y a l'attracteur maman va être particulièrement profond avec plein de sous-attracteurs à l'intérieur. Alors vous me direz, est-ce que la richesse de nos représentations que l'on peut avoir en rapport avec notre mère peut être représentée par ça? Eh bien, alors peut-être pas, mais il y a quand même un élément qui fait se dire que ce n'est pas impossible. Le nombre de... Voilà, le réseau d'attracteurs qui pourrait correspondre à un cerveau, hein, c'est un relief. Eh bien, le nombre de nœuds du réseau de la représentation graphique de toutes les étapes psychiques d'un cerveau humain, c'est-à-dire le nombre de points de ce réseau-là, est plus grand que le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. Donc vous voyez, quand on parle de la complexité et qu'on dit que jamais la science ne pourra représenter la complexité du psychisme humain, c'est parce qu'on n'utilise pas le bon langage. Quand en fait on représente comme ça l'ensemble des états possibles du psychisme humain, eh bien l'ensemble des états possibles, c'est très largement supérieur au nombre d'atomes dans l'univers. Donc notre cerveau, notre vie psychique peut être représentée par un paysage. Voilà, là par exemple, vous avez un relief, c'est peut-être un vieil ami. Et donc au fil du temps, quand vous n'avez pas vu cet ami, eh bien, le relief s'est abrasé. Parce que vous n'avez pas été confronté à l'image de cet ami, donc les connexions des neurones se sont affaiblies et le relief s'est affaibli. Mais à l'intérieur, il y a toujours quelques petites traces. Et puis si vous le rencontrez, vous allez tomber dans ce relief. Et s'il vous a amené des photos, s'il vous parle de votre passé, alors vous allez reconsolider ces connexions et le relief va réapparaître. Et vous allez vous souvenir. Alors, bien sûr, là-dedans, il y a un attracteur dont on voudrait parler, c'est l'attracteur « nous ». J'ai parlé de l'attracteur « maman », mais quand vous essayez de coïncider avec vous-même, comme ce que disait Sartre dans cette belle phrase, la conscience n'a pas de dedans, elle n'est rien que le dehors d'elle-même, et c'est cette fuite absolue, ce refus d'être substance qui la constitue comme une conscience, que la conscience essaie de se reprendre, de coïncider enfin avec elle-même tout au chaud, volet clos, elle s'anéantit. C'est-à-dire, ça veut dire ça que... Bien, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir conscience de soi comme on a conscience des autres. Donc ça voudrait dire qu'en fait, l'attracteur qui correspond à nous ne peut pas avoir la même forme qu'un attracteur tout simple qui correspond à l'attracteur de quelqu'un d'autre. Même si cet attracteur tout simple peut être très compliqué comme l'attracteur maman. Pourquoi l'attracteur soi serait compliqué? Parce que soi, c'est quoi? C'est pas le soi, l'ensemble des molécules qui nous constituent. Soi, c'est notre appareil psychique. C'est-à-dire, soi, c'est ce relief. C'est ça notre appareil psychique. C'est ça qui le résume. Comment ce relief-là pourrait-il avoir un attracteur qui correspond à lui? C'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir pleinement conscience de soi. Parce qu'il y a des attracteurs là-dedans qui correspondent à nous. Par exemple, quand j'ai mal, ça correspond à moi, ça. Donc, quelque part, il y a un attracteur qui correspond à cet état-là. L'attracteur, moi, doit infiltrer. Voilà. L'attracteur, moi, doit infiltrer l'ensemble du relief qui correspond à notre vie psychique. Vous voyez ? Un peu comme cet attracteur-là. Les mathématiciens, ils parlent d'attracteur singulier. Et donc, quand vous convergez vers ce qu'on pourrait appeler le non-attracteur-moi, c'est-à-dire c'est pas un vrai attracteur, tellement qu'il est compliqué, eh bien, quand vous atteignez cet attracteur, vous errez dedans, sans vraiment réussir à converger vers quelque chose. Et c'est ça que Sartre aurait tenté de décrire en disant que la conscience ne peut pas coïncider avec elle-même. Alors, comme j'arrive dans la dernière minute de mon exposé, interaction jeune environnement, ça veut dire quoi là-dedans? Eh bien, reprenons la genèse d'un appareil psychique humain. Je dis bien appareil psychique, pas cerveau maintenant. Le cerveau, c'est les neurones. L'appareil psychique, c'est l'ensemble des états possibles du cerveau. Avec en plus l'énergétique qui les relie les uns aux autres. On a ici le cerveau d'un embryon. Enfin, l'appareil psychique d'un embryon, c'est-à-dire quelques neurones, quelques attracteurs. Et bien sûr, le cerveau étant en partie préfabriqué, eh bien les attracteurs de cet embryon sont en partie préfabriqués. Et puis, au fur et à mesure que l'embryon vieillit, là c'est peut-être l'accouchement, etc. C'est-à-dire que notre vie consiste à modifier le relief d'un appareil psychique. Au début, ce relief est particulièrement simple, avec des espèces d'attracteurs élémentaires. Alors on les connaît un petit peu, les psychologues expérimentalistes en font des expériences sur les nouveau-nés. On sait que le nouveau-né peut capter le regard, etc., etc. Donc on doit avoir un attracteur préfabriqué, regard. Mais que ce relief change perpétuellement avant la naissance et après la naissance. Et donc, avec cette approche, il n'y a pas à différencier ce qui est génétique et ce qui est de l'environnement. Tout est une question de développement. À partir du moment où vos neurones, ou deux ou trois neurones, sont connectés les uns aux autres, jusqu'au moment où votre cerveau se décompose parce que vous êtes mort, eh bien votre appareil psychique a évolué en se creusant, en se rabotant au gré de votre expérience. Je vous remercie pour votre attention.